Ben, écoutez, c'est quand même quelque chose, hein, de voir l'évolution du discours d'Alexandre Bissonnette au fil du temps. La semaine dernière, on avait des extraits de cet appel qu'il avait fait au 911, dans lequel il disait, vous savez, vous m'avez dit qu'il y avait 6 meurtres, ça se peut pas. J'ai jamais fait de la misère à personne, j'ai jamais fait du mal à personne. Et puis là, hier, on apprenait que Alexandre Bissonnette, par la suite, s'était confié à une intervenante et qui lui avait dit qu'il se souvenait très bien de tout ce qui s'était passé, alors que pendant son interrogatoire là, avec le policier, là, il disait qu'il ne s'en souvenait plus très bien. Alors là, quelques mois plus tard, il parle avec une intervenante, il dit « Moi, je voulais la gloire. Les tueurs en série, c'était mes idoles. Et puis là, je regrette finalement de ne pas en avoir tué plus. » Je visais pas les musulmans. Dans les faits, ce que je voulais, c'était qu'on se souvienne de moi, comme d'un tueur en série, d'une certaine façon. Alors là, moi, je me pose la question, coudonc, le véritable Alexandre Bissonnette, c'est qui? Est-ce que c'est celui qui disait « J'ai jamais fait de mal à personne, je vous crois pas quand vous me dites que j'ai tué » ou est-ce que c'est celui qui dit « Ça n'a pas de bon sens, je regrette d'avoir tué des pères de famille » ou est-ce que c'est celui qui dit « Non, je me souviens très bien de tout, puis dans le fond, ce que je voulais, c'est la gloire. » Et pour essayer de comprendre, on va aller rejoindre le docteur Pierre Blot, qui est psychiatre au Centre universitaire de santé McGill. Bonjour, docteur Blot.
Hey, bonjour, M. Drainville.
Allons-y avec les différents profils, les différentes possibilités. Est-ce que d'abord, vous êtes étonné d'entendre ces espèces de changements de discours dans la bouche d'Alexandre Bissonnette? Est-ce que ça vous surprend?
Oui, beaucoup. En fait, c'est intriguant, je vous dirais. Quelques semaines déjà, là, quand il faisait son mea culpa, mais en tout cas, quand il passait durant son procès, quand il admettait sa culpabilité, je disais, bon, ben ça, c'est un gars qui a pris acte de ses gestes. Il devait être conscient de ce qu'il faisait. Puis j'ai été très étonné d'entendre la semaine dernière là, l'appel 911 qu'il y avait. Là, justement, j'écoutais le 98.5 quand je m'en venais. Puis je me disais, mon Dieu, c'est comme un homme en détresse qui est comme un peu dissocié de tout ce qu'il a pu faire. Puis là, ben hier, je regarde la télé, puis justement, le reportage qui mentionne cette intervenante en santé mentale où il confie que bon, là, écoute, il est pleinement responsable, puis il y avait un côté un peu grandiose, je vous dirais, dans ce discours-là, tu sais, de vouloir faire. Fait que c'est certain que ça, c'est on dirait que c'est trois individus différents tout à coup, là. Sur le plan de la psychiatrie, si je regarde des profils qui peuvent correspondre à ça, ben je me suis posé la question quand j'ai entendu ça hier, si c'était pas quelqu'un qui était comme peut-être avec un trouble de personnalité, ou en tout cas. On parle dans nos classifications de personnalité antisociale, mais tu sais, je veux dire que le profil de déjà défini depuis Pinel là, de psychopathe va beaucoup plus loin que ça, hein, parce qu'il y a des psychopathes qui n'ont jamais enfreint la loi, ou en tout cas en apparence ils l'ont jamais enfreint, mais c'est souvent des menteurs pathologiques là. Puis bon, il y a ça comme questionnement, puis il y a aussi toutes les autres questions qu'on est en mesure de se poser. En tout cas, en psychiatrie, moi, ce qui m'interroge tout le temps, c'est est-ce que cette personne-là avait la capacité de distinguer le bien du mal? Ça, c'est la première chose sur le plan légal. Hein.
Exact.
Puis la deuxième chose, est-ce qu'il était en contact avec la réalité? Puis ben là, ça peut soulever d'autres questions. Comme par exemple, être en contact avec la réalité, ben une personnalité où toute personne est jugée apte ou en contact avec la réalité jusqu'à preuve du contraire, là. Mais dans les contrats, nous, ce qu'on observe en clinique souvent, c'est des gens qui sont en psychose, par exemple, des psychoses de toutes sortes, là, schizophrénie, des psychoses aiguës qui peuvent être causées de plus en plus. Moi, je vois des psychoses à l'urgence causées par des abus de substances. Là, je veux dire, c'est le fun de parler de la légalisation du pot, là, mais je veux dire, il y a une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des psychoses sous ces substances-là. Il y a aussi des gens qui ont, de façon structurelle, ou en tout cas qui ont développé des pathologies qui sont peut-être appelées à devenir plus chroniques. Là. Je parle entre autres de la schizophrénie aiguë, des psychoses affectives. On peut penser à certaines formes de maladies affectives bipolaires quand les gens sont psychotiques. Puis il y a une zone un peu touchée. Hein. Tout ce qu'on appelle les troubles envahissants du développement, il y a des gens qui sont hyper fonctionnels quand même. Là. C'est-à-dire qu'ils ont une intelligence supranormale, puis sont en contact avec la réalité, mais ils n'ont pas la même perception des gens. C'est des gens qui sont souvent peu empathiques. En fait, ça réfère aux psychopathes. Hein. On dit souvent que ces gens-là, c'est des gens intelligents qui ont peut-être même une intelligence supranormale, qui ont un masque. Qui ont un masque là, pour apparaître socialement convenable, mais qui sont quand même empreints de toutes sortes de schémas intérieurs, là, de faire du mal aux autres, ou en tout cas de profiter des autres, je vous dirais plus. C'est des gens qui sont souvent sans culpabilité. Fait au début, si on voulait éliminer ça, ce jeune homme-là a fait comme un aveu de culpabilité. Là, fait qu'on pouvait se dire, est-ce qu'il y a eu des remords? Par contre, il y avait des gens qui disaient, ah, il n'était pas très affectif dans ses remords, puis... C'est difficile pour moi de qualifier ça. Puis il y a aussi la grande question qu'on pose toujours, puis même si c'est dans nos livres, je vous dirais qu'en 32 ans, moi, j'ai jamais vu ça. En fait, je me suis emmené en psychiatrie pour voir ces gens-là, ou en tout cas, j'étais fasciné par ce phénomène-là qu'on appelait les troubles dissociatifs ou à un certain moment qu'on appelait les troubles de les personnalités multiples, là. Ça veut dire des gens qui changent d'identité d'un moment à l'autre, ou en tout cas de stress à l'autre.
Je vous dirais, Dr. Blow, que c'est ce qui m'est traversé, c'est ce qui m'a traversé l'esprit, moi. Ouais. Quand j'ai vu sa déclaration hier, je me suis dit, est-ce que, parce qu'on, bon, je ne suis pas psychiatre, là, mais on a eu quand même, à travers le cinéma notamment, des exemples de ces personnes à l'intérieur desquelles cohabitent plusieurs personnes, plusieurs personnalités. Et là, c'est pour ça qu'on fait appel à vous, en fait. J'étais curieux de savoir, est-ce que c'est possible que tout ce qu'il nous raconte soit vrai, qu'il n'y ait pas de calcul ou de manipulation derrière ses propos, et donc qu'il y ait différentes facettes de la même personne qui se manifeste le soir du crime, dans les heures qui ont suivi pendant l'interrogatoire avec le sergent détective, et dans les mois qui suivent, aussi, est-ce que ça se peut que ces trois différentes facettes cohabitent à l'intérieur de la même personne?
Ben, vous savez, le cerveau humain, c'est complexe. Moi, je vous dirais, comme je vous le dis, là, en 32 ans, moi, les seuls phénomènes dissociatifs que j'ai eus, c'était des phénomènes surtout fragmentaires. On voit ça souvent associé, en tout cas, les gens qui disent que certains diagnostics comme le trouble de personnalité limite peut à certains moments dissocier. Bon, c'est une réalité, mais je vous dirais ces dissociations-là sont surtout fragmentaires. Je ne sais pas si on a pris un bon cliché là, dans les événements de jeune homme-là, mais effectivement, les troubles dissociatifs sont définis. Mais comme je vous dis encore...
Mais ça veut dire quoi, Dr. Blow, dissociatif, là, comme définissez-nous là, ça veut dire quoi ça?
Bon, en fait, je vous dirais ce que moi j'ai observé plus au cours de ma pratique, parce que j'ai longtemps travaillé puis pour les troubles d'anxiété, puis notamment le trouble de stress post-traumatique. Ben, ce qu'on appelle, vous savez, les fameux flashbacks, là. Vous savez, des gens qui sont allés au front ou à la guerre, puis soudainement, il y a un déclic, là, puis ils sont plus dans notre réalité, là. Ils sont comme à la guerre, je vous dirais. J'ai l'exemple ou le souvenir d'un patient là, qui me racontait là, qui était dans son garage en train de travailler un truc à son auto, puis il y a une femme qui est partie, puis ça lui a rappelé, ou en tout cas, c'est ce qui a déclenché un phénomène dissociatif où là, il était soudainement caché en arrêt de l'auto, là, puis là, ce qu'il voyait dans la rue, là, c'était tous les gens qu'il avait rencontrés en Afghanistan, là. Donc, vous savez, le phénomène dissociatif, plutôt qu'une psychose qui est davantage souvent plus élaborée dans un délire, etc., le phénomène dissociatif, soudainement, vous coupe de la réalité, ou en tout cas des perceptions que vous pouvez avoir de la réalité, puis vous donne toute une autre scène. Mais je vais vous avouer qu'à part des dissociations fragmentaires qu'on voit dans des moments de stress très aigus, là, c'est difficile d'envisager cet aspect-là, parce que quand même, il s'est présenté avec un gun puis une mitraillette là, sur les lieux lieux de cette scène-là. Je veux dire, donc, il devait avoir planifié ça. Est-ce qu'une de ses personnalités, si on retenait cette hypothèse-là, aurait planifié ça, puis c'est l'autre qui a récupéré la scène qui n'était pas là? Écoutez, moi, je vous dis, j'ai vu ça au cinéma aussi. Dans ma pratique, j'ai peu vu ça. Quoique, on a un spécialiste à Montréal qui, semble-t-il, aurait eu une collection de 3000 cas, mais sans vouloir préjuger de ça. Puis les aspects scientifiques nous montrent pas là que c'est très, très fréquent, puis ça court les rues. À l'inverse, une personnalité qui pourrait avoir un profil psychopathe, quelqu'un qui est intéressé par toutes sortes d'éléments de défense. Puis ça, c'est difficile de résumer une personnalité dans toutes ces catégories-là, là, parce qu'il y a beaucoup de dimensions à une personnalité. Puis souvent, on observe certaines particularités chez un individu, comme par exemple On faisait état cette semaine là que on a un président là, qui serait mental pathologique. Bon, on pourrait mettre ce trait de personnalité-là, par exemple, dans une personnalité antisociale ou ce qu'on appelle communément une psychopathe, là, c'est un psychopathe. Mais un trouble de personnalité ou une personnalité qui dissocie avec plusieurs fragments où là, une personne commettrait un geste comme ça, l'autre personne s'en rendrait coupable, puis ensuite de ça, on a un témoignage grandiose où on dit qu'on aurait pu faire plus de mal. Là. Ça, je vous avoue, ça me dépasse un peu. Là.
Donc, ça vous dépasse un peu, visiblement, c'est pas le. Mettons que ce serait pas l'hypothèse. Ce serait pas la première hypothèse que vous aimeriez retenir, mettons.
Non. Moi, c'est sûr que quand il a admis sa culpabilité, jeune homme-là, je me suis dit, il était conscient de ce qu'il faisait. Il y a des éléments de préméditation qui sont suggérés ici, quoique on a déjà vu des gestes prémédités qui étaient élaborés sous le couvercle de la psychose, puis des choses assez peu banales, là. Mais le fait de reconnaître sa culpabilité, je dis il prend acte de ses gestes. Mais là, le témoignage d'hier était tout à l'inverse de ça, vous savez. Ça, c'était vraiment à l'opposé complètement. Puis même vraiment étonnant par rapport à ce qui a été mis sous les ondes la semaine passée, quand il y a eu l'appel 911. On sentait surtout dans sa voix quelqu'un en détresse, hein. Puis là, hier, quelqu'un qui était en possession de ses moyens. Moi, je vous dis pas en possession de ses moyens, comme peut-être sous l'impulsion d'une espèce de délire de grandeur. Là. On s'étonne toujours aux gens qui veulent devenir des vedettes, qui veulent prendre toute la place, puis qui disent oui, moi j'aurais voulu faire plus. Puis quelqu'un qui dit que les tueurs en série, c'est ses idoles, c'est particulier. Là.
Est-ce qu'il y en a un des deux qui ment?
Dans ce discours-là, vous savez, le mensonge est toujours possible. Souvent, le stress va nous faire commettre des mensonges ou en tout cas va nous faire mentir pour se valider intérieurement de situations qui sont contradictoires. Là. Le mensonge, c'est aussi complexe comme phénomène. Là. Il y a des gens qui mentent juste parce qu'ils ont des gains à acquérir. Lui, il a déjà admis sa culpabilité. Les gains sont... C'est à peu près sûr que c'est de la prison pour 25 ans.
Au moins, oui.
Ouais, fait que je me dis, dans tout ça, si ses avocats n'ont pas forcé ou en tout cas n'ont pas amené l'élément de non-responsabilité criminelle pour raison de santé mentale, y a-t-il une raison en dessous de ça? Moi, ce qui m'étonne dans tout ça, vous savez, M. Drainville, c'est que on regarde ça. Hein? Moi, je suis un spectateur comme vous là-dedans, là, même si j'ai de la pratique en psychiatrie. Puis je me dis, c'est étonnant parce que, tu sais, il doit sûrement avoir des rapports psychiatriques qui ont documenté, soit à travers des tests psychométriques ou une évaluation clinique, là, qui était ce jeune homme-là. C'est difficile à travers tout ce qu'on entend de faire ou de collectionner des aspects qui ont l'air totalement contradictoires. Fait que moi, je retenais... Est-ce qu'il y a une psychose qui est là, puis on la voit pas, ou est à bas bruit? Est-ce que c'est un trouble envahissant du développement où on a seulement un jeune homme qui est fasciné par les armes, qui n'a pas d'empathie, puis pour qui les humains sont comme des objets? Est-ce qu'on a un trouble dissociatif, vraiment comme j'aurais toujours voulu en voir, mais j'en ai jamais vu hein, en 30 ans? Je me dis, ça peut peut-être parler. Écoutez, moi, dans mon centre où je travaille, on a à peu près 3500 consultations par année à l'urgence. Je veux dire, moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu des gens qui, soudainement, perdent contact avec la réalité momentanément, mais on dirait que ces gens-là sont pas assez organisés pour toute préméditer un événement comme qui est survenu à Québec. Là.
C'est très mystérieux, tout ça. Je sais pas si on connaîtra jamais la fin de l'histoire ou la vérité, comme on dit, avec un grand V. On va s'arrêter là-dessus. Docteur Pierre Blot, psychiatre au Centre universitaire de santé McGill. Merci pour la réflexion.